Des questions plein la tête. Toutes les réponses aux questions que vous ne vous êtes jamais posées.
Ah bon ?
Peut-on soigner avec l'effet placebo ? Épisode 5. Tisser des soins. Bienvenue dans Des questions plein la tête sur Radio Campus Grenoble 90.8. Dans cette émission, on ne trouve pas toujours de réponses, mais on découvre toujours de nouvelles questions.
Bon, il y a quoi qui est proposé déjà ? L'effet contextuel, pas très vendeur. Il n'y a pas un groupe qui va s'appeler Contextuel ? Non, il faudrait clairement un truc qui sonne bien. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre de cool en haut ? Perso, cogito, combo. Tiens, l'effet combo, pourquoi pas ? Sinon, il y a quoi ? Taco, risotto, pesto.
J'ai faim.
Qu'est-ce que tu fais ?
Bah, tu te souviens de ce que nous a dit Nicolas Pinceau ?
Je pense que le terme placebo, du coup, maintenant, il devrait être un petit peu abandonné pour aller vers une autre terminologie. Il y en a qui appellent ça la médecine magnifiée, d'autres la médecine plutôt symbolique. Sauf qu'en fait, les chercheurs n'arrivent pas vraiment à se mettre d'accord sur cette terminologie.
Alors moi, j'essaie de les aider et de trouver un nom plus adapté. Parce que c'est vrai qu'on s'y perd entre placebo et effet placebo. Ça prête à confusion et je trouve que ça nous fait oublier l'essentiel.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est que l'effet placebo, il est là tout le temps, dès qu'il y a une relation de soins. Et pas besoin de la petite pilule de placebo pour ça.
À partir du moment où vous êtes dans un processus de soins...
Nicolas Pinceau, chercheur au Team C à Grenoble.
Vous aurez un phénomène placebo qui va intervenir. Donc autant faire en sorte qu'il soit le plus fort possible.
Moi, je plaide pour qu'on utilise vraiment...
Rémi Boussajon, médecin généraliste.
Les ingrédients qui expliquent l'effet placebo, mais qu'on les utilise sans placebo.
Ce qu'ils disent là, avec Nisrine, nous, ça nous parle beaucoup. Alors c'est à ça qu'on va s'intéresser pour 5e épisode. Et pour commencer, ce qu'on allait demander, c'est comment on fait pour justement maximiser l'effet placebo dans le cadre du soin.
C'est-à-dire que si on pouvait recevoir les patients avec du temps, avec de l'écoute, voilà, et ça serait peut-être, à mon avis, préférable que de prescrire facilement des produits, même si c'est des placebos.
Avoir un médecin traitant en qui on a confiance et avec qui on peut discuter, ça change tout.
Myriam Dergam, médecin généraliste.
Et je le vois avec mes patients. Les patients qu'on voit depuis un an avec qui on a réussi à avoir une relation de confiance, bah typiquement, ils reviennent du CHU avec des ordonnances en me disant « on n'a pas compris ». On a dit « oui, oui, le médecin il était très gentil, mais on n'a pas compris ». C'est-à-dire ils ont pris rendez-vous pour une consultation, ils n'avaient besoin de rien, à part me dire « on n'a pas compris, est-ce que c'est normal ?». Et c'est des consultations qui, entre guillemets, entre gros guillemets, sont au sens de l'État inutiles. Parce que ce n'est pas une consultation où j'ai prescrit un médicament et apporté une solution à un problème de santé. J'ai apporté une écoute, une aide. Donc je pense qu'avoir ce médecin relais, c'est déjà beaucoup.
C'est très important ce que dit Myriam Dergam ici. Et il y a effectivement de nombreuses études qui confirment le rôle majeur que joue la relation entre patient et soignant dans l'efficacité du soin.
Une étude a notamment été menée avec des patients atteints du syndrome du côlon irritable afin de comprendre quels étaient les impacts des différentes composantes de l'effet placebo. Celle-ci a montré que la relation soignant-soigné était l'élément le plus robuste de l'effet placebo, plus encore que le rituel de prise d'un placebo lui-même.
Une synthèse d'études a par ailleurs mis en évidence que pour que cette relation soit un réel levier pour l'effet placebo, il faut que les praticiens mettent en confiance, créent un environnement accueillant, parlent favorablement des traitements, mais de manière réaliste, encouragent, rassurent. Ils doivent également privilégier une approche individualisée qui prend en compte les valeurs, besoins et préoccupations spécifiques des patients. Donc on a voulu savoir, est-ce que notre système de santé permet actuellement de favoriser ce type de relation ?
Quand même, une des problématiques qu'on a en France actuellement, c'est déjà l'accès aux soins. Donc la première chose pour que les gens mettent en œuvre un effet placebo, il faudrait déjà qu'ils aient accès à un professionnel. Moi, je crois beaucoup à une forme de personnalisation, finalement, du parcours de soins. Sauf que pour personnaliser, il faut du temps. Et on a dérivé vers un système de santé qui a de moins en moins de moyens financiers et de moins en moins de temps à accorder aux patients. Et du coup, c'est là qu'il y a le paradoxe, c'est qu'il faudrait plus de temps de soins entre le professionnel et son patient, et on en a de moins en moins. Que la plupart des professionnels de santé font quand même ce métier pour le soin au départ, donc c'est récupéré par les individus. Mais en tout cas, le système, il n'est pas très propice à produire ça, quoi.
Et puis, on n'est pas non plus tous égaux dans cette relation avec les soignants. On a eu envie de demander à Myriam Dergam, qui a mené des recherches en sociologie, de nous parler un peu plus de ça.
Mes premiers travaux de recherche s'intéressaient du coup aux discriminations, au racisme dans le soin, au syndrome méditerranéen. Le syndrome méditerranéen, c'est une façon de dire que la douleur est trop exprimée par certains patients qui aujourd'hui concernent plein de gens, mais surtout finalement les indésirables, l'immigré indésirable. Les discriminations, ça concerne également la grossophobie, la transphobie et toutes les autres discriminations qui peuvent exister. J'ai une amie qui travaille sur la grossophobie et qui montre qu'une personne victime de discrimination, en dehors de tout problème de santé, a une morbi-mortalité 30% plus importante qu'une personne grosse n'ayant pas subi de discrimination. Sans compter qu'une fois qu'on a subi des discriminations, on ne s'intègre plus au parcours de soins, et ça c'est très bien prouvé par l'association Chrysalide chez les personnes trans, où on a entre 30 et 40% de non-recours aux soins, qui monte à 67% quand on a déjà eu une expérience négative avec un praticien. En soi, nous, notre rôle, on a juré de soigner tout le monde. Et c'est cet idéal républicain qui est aussi un frein, c'est qu'on a cette impression de quand on met notre blouse, on voit plus les couleurs, on voit plus le genre, on voit plus rien, ce qui est faux. On vient tous avec notre bagage socioculturel, et c'est normal, hein, on n'a pas vécu dans une bulle, on a vécu dans une société, et l'idée, c'est qu'à mon sens, c'est que l'université doit nous apprendre à déconstruire ces stéréotypes pour qu'on offre le meilleur soin pour tous.
Toujours sur le constat actuel, Nicolas Pinceau amène une réflexion vraiment intéressante.
Ce qui est intéressant selon moi, c'est que d'observer là les facteurs qui sont liés finalement au contexte du soin, ça nous permet de mettre en lumière aussi des aspects un peu plus politiques de la manière dont notre système de santé a détérioré la relation que les professionnels peuvent avoir avec les patients, à l'inverse d'une autre offre, par exemple dans les soins alternatifs et complémentaires, où ils travaillent beaucoup sur cet aspect contextuel. Initialement, j'ai fait une formation de kiné, entre un kiné et un ostéo, par exemple. C'est un objet d'étude intéressant pour les frontières entre les thérapies considérées comme scientifiques, d'autres considérées comme alternatives et complémentaires. Et je me suis dit, mais c'est quoi le critère de démarcation? Et puis, en tirant le fil du critère de démarcation, il y avait la question, mais pourquoi dans un système de santé comme le nôtre, qui malgré tout est assez bon, des gens se tournent vers des alternatives? Et du coup, la question des effets contextuels du placebo est venue par ce biais-là. Et du coup, on peut se retrouver avec un paradoxe, c'est que les gens peuvent être finalement avec une efficacité d'un soin qui est démontré comme pertinent, atténuée par le fait qu'on les ait pris en charge de manière rapide, froide, insensible à l'hôpital. Alors que de l'autre côté, il y a des professionnels qui vont proposer quelque chose de creux, qui n'a aucun effet, sauf qu'ils vont le proposer de manière tellement appétissante que du coup, ça va presque rattraper et être équivalent, voire l'un va passer devant l'autre. Et souvent, moi, ce que j'observe, c'est vous avez les tenants de la médecine scientifique et puis de l'autre côté, les tenants des médecines alternatives et complémentaires, ils ne se parlent pas, ils sont opposés sur à peu près tout. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a peut-être quand même une ligne de crête pour dire, attention, il y a des critiques à faire d'un côté, il y a des critiques à faire de l'autre côté. Essayons de trouver la meilleure solution, finalement, pour le patient.
On leur a aussi demandé s'il n'y avait pas quand même déjà des choses qui allaient dans le bon sens. Ou encore, quelles seraient, selon eux, les avenues à explorer.
En tout cas, moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il fallait, à mon sens, s'appuyer sur l'ensemble des professionnels de santé. Et peut-être sortir d'une forme de médico-centrisme. Par exemple, on a développé un jeu sérieux avec des femmes à qui on diagnostique le cancer du sein. Le comité d'éthique a refusé que ce soit un autre professionnel qu'un médecin qui joue au jeu. Sauf qu'en fait, qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie? Les médecins traitants n'avaient pas le temps. Donc en fait, on a pu inclure 29 patientes en 18 mois, alors que si on avait fait appel aux infirmiers, aux kinés, etc., on aurait pu multiplier par je ne sais pas combien ce nombre de patients inclus. Donc là, il y a aussi des formes parfois de tradition, j'ai envie de dire, alors qu'a priori, en fait, le niveau de risque de faire animer le jeu par un autre professionnel de santé était quand même relativement restreint. Mais ça fait partie des éléments. Donc nous, on travaille aussi dans l'équipe beaucoup sur les soit les délégations de tâches, soit les collaborations interprofessionnelles. Et on s'aperçoit qu'en fait, sur le terrain, la plupart des gens sont prêts à ça. Et les professionnels de santé sont assez contents de collaborer les uns avec les autres et de se partager finalement la tâche de prendre en charge des patients. C'est plus compliqué d'un point de vue national, puisqu'il y a un peu des postures aussi qui sont présentes avec des formes un peu de corporatisme. Et puis après, il y a des formes d'organisation des professionnels qui, à mon avis, vont dans le bon sens. La plupart des jeunes professionnels de santé maintenant s'organisent soit en maison de santé pluriprofessionnelle, en tout cas, ils s'organisent à plusieurs pour exercer en groupe. Et ça favorise les échanges la plupart du temps. Donc je pense que progressivement, ça va bouger.
Il faut bien se dire que maintenant, ce dont on a besoin, c'est de soignants. Et on a surtout besoin d'infirmiers, d'aides-soignants, de gens qui peuvent être là, à l'écoute de nos patients, qui peuvent être des relais pour nous, et envers qui les patients, ils auront assez confiance pour parler. Et c'est, je suis dans une maison de santé pluridisciplinaire, du coup, on travaille avec 4 infirmières à domicile, et c'est aussi super parce que les infirmières à domicile, c'est des relais de proximité pour les patients, ils les voient tous les jours, ils ont confiance, ils leur parlent de leurs problèmes. Quand il y a gros problème, elles nous envoient un message et on peut réadapter.
Donc à mon avis, il faudrait que les patients mettent plus leur grain de sel dans l'histoire, moi. Il faudrait qu'il y ait plus de patients qui donnent leur point de vue sur la manière dont ils sont traités, par qui ils sont traités, comment ça s'organise.
Donc, on se retrouve avec un tas de nouvelles pistes à explorer. Relations de confiance et d'écoute avec le soignant, considération et implication du patient, collaboration interprofessionnelle. Et ça tombe bien, parce que juste à côté de chez nous, il y en a qui se sont posé toutes ces questions. Notamment le Village de Santé, un centre de santé communautaire autogéré à Échirolles, créé en 2012.
Deux salariés du projet étaient interrogées par nos camarades de micro-ondes en décembre 2020 et elles expliquaient justement comment elles avaient réfléchi à toutes ces questions-là. On les écoute tout de suite.
Moi, je m'appelle Donia et je suis accueillante au Village de Santé.
Et moi, je m'appelle Riwana, je suis médecin généraliste au Village de Santé. Le Village de Santé, c'est un centre de santé communautaire qui est basé à Échirolles, dans le quartier du Village 2.
Le projet, il a commencé à prendre forme avec un diagnostic communautaire. Donc du coup, il y a eu une longue période où on est allé à la rencontre des habitants pour pouvoir construire le projet en se basant sur, en tout cas, leur vision aussi de ce qui se faisait d'un centre de santé communautaire.
L'idée de la santé communautaire, c'est que le soin, ce soit pas juste un soin qui est donné par un professionnel de santé, c'est quelque chose qui est intégré dans le parcours des patients et qui eux-mêmes ont moyen d'agir là-dessus. Et du coup, c'était important d'avoir ce diagnostic communautaire pour que les gens, en fait, qui vivent ici le quartier et qui seront les usagers usagères du centre, participent à l'élaboration de ce projet.
Quand on est accueillant au Village de Santé, on n'est pas que simplement secrétaire médical. On a vocation, enfin, j'aime à croire que ça va un peu au-delà de ça. Les tables, elles sont disposées comme dans un petit bistrot, enfin c'est pas l'accueil standard qu'on peut s'imaginer dans un centre de santé un peu froid et austère. Non, nous ce qu'on va rechercher c'est la convivialité, le fait que ben en fait on puisse aller à la rencontre des personnes et discuter. Et c'est pas grave si les personnes elles ont pas forcément une consultation, elles peuvent venir juste se poser, prendre un café et puis parler et puis des fois en fait ça débouche sur d'autres choses. Donc on est vigilant à ça aussi à l'accueil. Je pense que la dimension de la convivialité, elle est très importante et que ça permet de créer un lien plus fort, en tout cas avec les patients. Et ça contribue au fait qu'en fait, les gens ils se sentent aussi mieux. Et on considère vraiment que l'accueil fait partie du soin aussi. Et qu'on est quand même la première interface, en fait. Quand les gens ils arrivent, c'est nous qui rencontrons en premier. Donc, c'est important qu'ils se sentent bien.
Effectivement, nous, on voit la santé comme quelque chose de global, c'est pas une personne qui vient qui a une maladie à un moment donné. En fait, il y a plein de choses qui impactent la santé, notamment le logement, le niveau de revenu, le fait d'être victime de discrimination, des gens qui ont le travail qui peut être très pénible, tout ça, ça a un impact sur la santé. Et juste de donner des antalgiques à quelqu'un qui a mal au dos parce qu'en fait, il a un travail qui est super difficile, ça fait juste mettre un pansement sur le problème, mais ça prend pas le problème dans toute la globalité. Du coup, on essaye dans la mesure du possible d'essayer de prendre ces choses-là en compte aussi. S'il y a des soucis au travail, il y a une personne qui est pas mal formée là-dessus, qui peut accueillir des personnes pour discuter avec eux de comment ça se passe au travail, de voir s'il y a des choses qui peuvent être faites ou pas en termes légaux pour faciliter les choses. Il y a tout un volet lutte contre les discriminations. On peut être victime de discrimination par les professionnels, par le fait que, par exemple, à l'hôpital, où on peut être débordé, quelqu'un qui ne parle pas bien français, ben en fait, on ne va pas essayer de prendre le temps de comprendre ce qui se passe, parce qu'on n'a pas le temps. Et du coup, en fait, on ne comprend pas sa problématique. Et du coup, on essaye de pouvoir faire des choses pour limiter ça.
Notre médiatrice en santé accompagne en fait les personnes aussi dans leur parcours de soins, dans les prises de rendez-vous,
pour qu'elles puissent plus facilement s'exprimer ou qu'on puisse faire de la traduction. Chacun a son rôle en fait à jouer pour la santé des patients, des patientes qui viennent ici. Et on prévoit aussi un temps de réunion où donc c'est 2 heures par semaine avec tous les professionnels du centre pour pouvoir discuter de certaines situations qu'on estime compliquées ou qu'on a besoin d'échanger entre nous pour essayer de trouver les meilleures solutions à apporter aux patients et aux patientes. Et le fait d'en parler avec différents professionnels, on n'a pas tous les mêmes points de vue de la situation et du coup ça aide à trouver des solutions communes, quoi.
La bonne nouvelle, c'est que cet exemple n'est pas un cas isolé. D'autres initiatives du même genre ont vu le jour dans d'autres quartiers, comme dans le quartier Saint-Bruno, par exemple.
Ah, je suis contente.
Pourquoi ?
Bah parce que ça y est, on l'a fini, notre enquête.
Qu'est-ce qui te fait dire ça ?
Peut-être le fait qu'on a interviewé des chercheurs, des médecins, fait la tournée des pharmacies, lu une 50aine de publications scientifiques, lu un livre complet sur le spasmon, écouté des heures de vidéos et podcasts sur l'effet placebo. On a retracé son historique, expliqué son fonctionnement, exploré des placebos impurs, des placebos sans mentir, l'effet placebo sans placebo. On ne devait en faire qu'un épisode et on a fini par en produire 5. Je pense que c'est bon, ça y est, on peut se dire qu'on a fait le tour. On va pouvoir passer à notre prochain sujet d'émission.
Désolée Marie, mais je peux pas te laisser dire ça.
J'espère que tu plaisantes. Toi tu fais ce que tu veux, mais moi c'est bon, hein. J'arrête.
Non, on peut pas s'arrêter là. On n'a même pas parlé du plus important.
Je sens qu'il est là. C'est lui.
Robinson.
Vous pensiez tout savoir sur le placebo. C'était sans compter sur son jumeau magnifique. 2 fois plus puissant, toujours plus dangereux, il va hanter vos pires cauchemars. Le nocebo. Le nocebo. 15 ans, ça va s'arrêter.
Rendez-vous demain même heure sur Radio Campus Grenoble 90.8. Ce sera le dernier épisode de la série, mais non le moindre. On y parlera, vous l'aurez compris, de l'effet nocebo. Et en attendant...
Est-ce que je te demande si ton boucher va aux os ?
Des questions plein la tête ? Une série à réécouter en podcast sur Radio Campus Grenoble à la page de l'émission.
Je ne suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Je ne suis pas d'humeur à ce qu'on me dise quoi faire. Je ne suis pas d'humeur à faire des nuits blanches. En cherchant les paroles que tu vas comprendre. Je ne suis pas d'humeur à attendre que tout change. Je ne suis pas d'humeur à être rassurante. Je ne suis pas d'humeur à rendre cette larme. J'ai déjà les miennes qui coulent encore.
Je me sens pas bien.
Je suis pas ta psy. Et d'ailleurs j'ai pas de diplôme. Je ne suis pas doué. Je t'assure, mieux vaut regarder dans ton cœur des éclairs, des consciences.
Je me sens pas bien.
Je suis pas ta psy. Et d'ailleurs, j'ai pas de diplôme. Je ne suis pas doué. Je t'assure, mieux vaut respirer et compter en 2, 3. Censurer tes messages à la con. Je ne suis pas d'humeur à être ta guérisseuse. Je ne suis pas d'humeur à interpréter tes rêves. Je ne suis pas d'humeur à négliger mes potes et me faire toute petite jusqu'à ce que ça s'arrête. Je ne suis pas d'humeur à creuser tes mystères. Je ne suis pas d'humeur. N'est pas être sincère. Je ne suis pas d'humeur en terre quand tu le souhaites et faire semblant que tout va bien.
Je me sens pas bien.
Je suis pas ta psy. Et d'ailleurs j'ai pas de diplôme. Je ne suis pas doué. Je t'assure, mieux vaut regarder dans ton cœur des éclairs. Des consciences, yalala, yalala, yalala.
Je me sens pas bien.
Je suis pas ta psy. suis pas doué. Je t'assure, mieux vaut respirer et compter en deux, trois, censurer tes messages à la con.